Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ils font l'amour le samedi, les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. C'est Michel Fugain qui le dit.
Qui c'est qui vend des fusils?
Les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant?
Les méchants.
S'en est moins sûr, Michel. Notre personnage du jour est un gentil, lui. Guillaume le Gentil, c'est son nom. Gentil, mais clairement poissard. C'est l'histoire de ce scientifique du grand siècle que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Qu'est-ce qui pousse un aristocrate du XVIIIe siècle à quitter sa terre, à s'aventurer dans les mers lointaines au prix de 1000 dangers et à passer plus de 11 ans loin de son pays? La guerre, la fortune, la soif d'aventure, l'amour peut-être? Non, rien de tout ça. Ce qui a poussé Guillaume le Gentil à devenir aventurier, bien malgré lui, c'est une étoile, Vénus. Parti au bout du monde pour observer le passage de cette planète entre la Terre et le Soleil, c'est sur un océan de déconvenues qu'il voguera, ratant sans cesse ses rendez-vous avec un astre, objet ultime de son désir et cause de son errance. Pourtant, rien ne prédestinait Guillaume le Gentil de la Galésière à la vie de baroudeur qui fut la sienne. Né en 1722 dans une famille de la petite noblesse normande, après le collège, il intègre le séminaire, prélude à une vie d'ecclésiastique. Mais en 1745, lorsqu'il vient parfaire ses études religieuses à la faculté de théologie de la Sorbonne, un autre chemin se dessine. Curieux, Guillaume commence à suivre les cours d'astronomie au collège royal voisin. En ce siècle des Lumières, la raison et les sciences triomphent sur la foi et les superstitions. On cherche à expliquer le monde, mais les voies du Seigneur semblent finalement trop impénétrables à Guillaume, qui préfère lui, désormais, étudier le ciel pour comprendre le cosmos. Guillaume le Gentil intègre l'Observatoire de Paris, puis, en 1753, la prestigieuse Académie des sciences. À cette époque, une question agite particulièrement le monde de l'astronomie, celle de la distance précise entre la Terre et le Soleil. Pour la déterminer par de savants calculs, on utilise le transit des planètes, c'est-à-dire leur passage entre notre Terre et le Soleil. Si Mercure peut être utile, le transit de Vénus permettra une estimation bien plus précise, et cela tombe bien. Son passage doit avoir lieu en 1761, puis en 1769, avant de ne revenir qu'en 1874. Toutes les sociétés savantes d'Europe sont en ébullition, Mathieu. On détermine des points d'observation partout à travers le globe. Guillaume le Gentil se propose, c'est décidé. Il ira observer le transit de Vénus depuis Pondichéry, comptoir français dans les Indes orientales. Le 26 mars 1760, Guillaume embarque alors à Lorient, 15 mois avant le passage de Vénus. C'est qu'il faut être prudent et mettre toutes les chances de son côté pour ne pas la rater. Alors qu'il n'a jamais vu autre chose que Paris ou sa Normandie natale, il se lance tout seul dans un voyage à travers les océans qui, à l'époque, n'a rien d'une sinécure. Dès la première nuit, une tempête de grêle fait découvrir les effets de la houle sur le corps d'un astronome. Pas besoin d'être un scientifique accompli, vous avez compris. Le Gentil mettra plusieurs semaines à ne plus subir le mal de mer. C'est lors d'une escale à l'île de France, actuelle île Maurice, qu'il comprend que son voyage est loin d'être terminé. La guerre, que l'on nommera plus tard de 7 ans, fait rage depuis 1756 entre les principales puissances européennes, tant sur le vieux continent que dans les colonies. Les possessions indiennes sont le théâtre du conflit entre la France et l'Angleterre. On somme le navire de retourner à l'Orient, mais le Gentil ne peut s'y résoudre. Il traîne quelques mois avant de pouvoir enfin embarquer sur un autre bateau, en direction de Pondichéry. Ralenti par les vents contraires de la mousson, il apprend que le comptoir est passé aux Anglais, qui n'autorisent pas le navire à accoster. C'est donc depuis le pont, en plein océan Indien, que le 6 juin 1761, Guillaume tente péniblement d'observer l'astre tant attendu. Il y installe son sextant et surtout son quart de cercle, imposant instrument fait d'un arc de bronze gradué, augmenté de lunettes de visée avec curseur qui permet de mesurer l'angle de hauteur des astres au-dessus de l'horizon. L'appareil nécessite une totale stabilité. Chancelant sur le pont du navire, Guillaume ne voit pas grand-chose. Tout ce voyage pour rien. Un mois plus tard, le Gentil est de retour sur l'île. Il attend sagement qu'un navire daigne le ramener vers l'Orient. Il décide de mettre ce temps à profit pour étudier ses mers et terres lointaines. Il effectue moult relevés sur Madagascar et l'île Bourbon. C'est la Réunion aujourd'hui. Il prend aussi le temps de découvrir les sociétés locales, autant que la rudesse des fièvres tropicales. Il ne cesse d'envoyer des rapports à l'Académie et sous-entend dans ses lettres qu'il pourrait rentrer bientôt. Mais à partir de 1765, son choix est fait. À quoi bon repartir pour des mois de navigation ? Autant rester sur la zone pour profiter du prochain transit de Vénus en 1769. 4 ans, c'est pas si long finalement. Il décide de partir pour Manille, aux Philippines, alors terre espagnole, qui sera un point d'observation tout aussi appréciable que Pondichéry. Mais les relations se tendent avec les autorités locales qui le soupçonnent d'espionnage. Il quitte donc les Philippines en février 1768. Faux départ, le navire manque de chavirer. Finalement, un mois plus tard, le gentil atteint enfin Pondichéry. Il lui reste 14 mois avant le transit de Vénus, de quoi se préparer tranquillement. Il fait construire un observatoire et y dispose, cette fois comme il se doit, ses nombreux instruments, sextants, quart de cercle et lunettes à lentilles. Il prend le temps de s'enquérir des connaissances astronomiques locales sur la prévision des éclipses. Cette fois, il est fin prêt. Le jour fatidique arrive. Oh, tout s'annonce pour le mieux. La veille, le ciel était parfaitement clair, comme toujours en cette saison. Mais hélas pour lui, au matin, un inquiétant vent rabat d'épais nuages sur la côte. Guillaume le Gentil est soucieux, mais croit en sa bonne étoile. Cela ne peut pas durer. Et pourtant, il faut s'y résoudre. Le ciel est obstrué. Il ne verra rien de ce second passage. Encore raté. Vénus ne reviendra que dans 105 ans.
Oh la loose.
On imagine la déception de cet homme qui s'était donné comme sacerdoce de courir après une étoile qui ne cessa de se dérober. Ajoutez à cela quelques mois de fièvre et de dysenterie et l'évidence se fait jour, il faut rentrer. 10 ans de relevés et d'observations lui permettent au moins de revenir auprès de l'Académie en ayant fait avancer la science. Il pourra retrouver sa place, ses proches, sa maison et le repos. Mais il semble que parfois, le sort s'acharne. Guillaume le Gentil quitte Pondichéry en mars 1770. Il fait à nouveau escale sur l'île de France, pause méritée pour sa santé chahutée par les maladies tropicales. Je vous passe les détails, mais vous imaginez. Une fois remis sur pied, le scientifique embarque sur un navire et quitte l'île. Mais il revient après une errance en mer. Oui, les mâts du bateau ont été brisés par une tempête. Bloqué sur cette île qu'il finit par maudire, il ne trouve pas de bateau pour rentrer. Il prend finalement place sur un navire espagnol et essuie pas moins de 3 tempêtes avant de pouvoir passer le cap de Bonne-Espérance et remonter vers l'Europe le long de la côte africaine. Oh bonheur, après avoir traversé toute l'Espagne par la route, il foula enfin le sol français plus de 11 ans et demi après son départ. En novembre 1771, le gentil est à Paris, en route vers sa maison à côté de l'observatoire. Quelle n'est pas sa surprise d'y trouver quelqu'un. Nicolas de Condorcet, mathématicien astronome, a été nommé à sa place à l'Académie et loge tout bonnement chez lui. C'est de sa bouche que Guillaume le Gentil apprend que tout le monde, ses collègues et amis de l'Académie ou sa famille normande, le croient en vérité mort. Il faut avouer que ça fait 2 ans que personne n'a reçu la moindre lettre. On a d'abord cru qu'il avait succombé aux sirènes de l'argent facile dans ses lointaines colonies avant d'en déduire qu'il n'était tout simplement plus de ce monde. Épuisé par un si long voyage, bien vivant mais atterré par ce qu'il apprend, Guillaume n'a d'autre choix que d'accepter d'être invité à passer la nuit dans son propre logis. Le gentil a perdu son poste à l'Académie et les privilèges qui vont avec, et il ne tarde pas à découvrir qu'en Normandie, son frère et sa sœur ont commencé à se partager son héritage. Si son poste à l'Académie lui est vite rendu, il lui faudra encore subir des mois de maladie à Paris avant de faire son retour à Coutances, son village normand, pour prouver sa santé à sa famille et s'engager dans un procès avec le fondé de pouvoir qui a géré ses affaires en s'accaparant 1/3 de ses revenus. Mais comme un énième coup du sort, il perd son procès. Énième, mais pas dernier. Enfin réhabilité, Guillaume le Gentil trouve finalement la paix du foyer auprès de sa femme qu'il a épousée en 1774, 3 ans après être rentré, et de leur fille. Il continue son travail à l'observatoire et se lance dans la rédaction de ses mémoires avant de diriger l'Académie des sciences à partir de 1790. Loin des aventures, des moustiques et des tempêtes, il s'éteint paisiblement 2 ans plus tard, avec la certitude de trouver enfin le repos.
Bien mérité.
Europe 1, historiquement vôtre.